Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la radio francophone iranienne en ce vendredi 14 avril 2023, le 25 Farvardin 1402 du calendrier persan. Nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique sur la journée mondiale de Guts. Restez avec nous. La grandiose marche de la journée de Guts a été organisée à travers le pays. L'Iran appelle à une enquête internationale sur des laboratoires biologiques financés par les États-Unis en Ukraine. Et au Yémen, un échange sur 3 jours de plus de 800 prisonniers entre les deux camps ennemis vient de débuter. C'était les principaux titres de l'actualité, en voici maintenant les détails. Le président iranien Ebrahim Raisi s'est joint à l'immense foule de personnes participant à la marche de la journée mondiale de Guts à Téhéran. Selon l'IRNA, le président Raisi a rejoint les participants à la grande marche de la journée mondiale de Guts dans la capitale depuis la rue Kargar en ce vendredi 14 avril, soit le 23e jour du mois béni de Ramadan. Une foule immense de manifestants ont participé ce vendredi partout en Iran, dont à Téhéran, à une marche nationale pour réitérer leur solidarité avec le peuple palestinien et le soutien constant de l'Iran en faveur de la cause palestinienne. La présence de Raisi parmi les manifestants a été accueillie avec enthousiasme par la foule qui l'a accompagnée en scandant les slogans comme « Mort à l'Amérique » et « Mort à Israël ». Le message de la participation à la marche de la journée mondiale de Guts est de réitérer la solidarité de l'Oumma islamique avec la Palestine et de déclarer que la tentative de normalisation des relations entre le régime sioniste et certains gouvernements de la région ne leur portera pas la sécurité, a déclaré le président Raisi au micro de l'agence IRNA. La cérémonie de la journée de Guts de cette année a commencé simultanément à 10 heures dans plus d'un millier de villes et de villages d'Iran. De même, un défilé naval a été organisé jeudi en guise de soutien au peuple palestinien opprimés dans les pays de l'axe de la résistance. À la veille de la journée mondiale de Guts, les dirigeants et hauts responsables des membres de l'axe de la résistance, tels que les mouvements yéménites Ansarallah et libanais Hezbollah, ainsi que des groupes de résistance palestiniens, ont souligné dans des messages séparés qu'il fallait poursuivre la lutte contre l'occupation israélienne jusqu'à la libération totale du peuple palestinien. Dans un discours prononcé ce jeudi, le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyed Hassan Nasrallah, a déclaré que la journée mondiale de Guts constitue le volet principal de la grande bataille que mène l'Oumma islamique pour la libération de la Palestine. Soulignant la cause de la Palestine, il a déclaré que de nombreux développements ont eu lieu cette année au niveau mondial et régional et à l'intérieur du régime sioniste, qui ont tous un effet positif sur la bataille de l'axe de la résistance contre les plans expansionnistes du régime sioniste et des États-Unis. Affirmant que le monde évolue progressivement vers un ordre multipolaire qui mettra fin à l'hégémonie unipolaire de l'Amérique, Il a précisé que la région assistait à l'échec du projet de terrorisme et d'agression de pays et de régimes étrangers et à l'avancement des pays de la région vers un apaisement des tensions sur fond de dialogue, comme en témoigne déjà l'amélioration des liens entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Le président iranien Ebrahim Raisi a également appelé les pays musulmans à former un front uni pour mettre fin aux actes criminels du régime sioniste contre les Palestiniens. Raisi a fait ses remarques lors d'un appel téléphonique avec le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif jeudi, à la veille de la journée de Quds. La journée mondiale de Quds a été instituée par l'imam Khomeini, le défunt fondateur de la République islamique. Elle est célébrée chaque année, rappelons-le, dans le monde entier. Le dernier vendredi du mois béni de Ramadan, cette année, l'événement tombe le 14 avril. De même, se référant aux relations amicales de longue date entre le Pakistan et l'Iran, le président iranien a exprimé l'espoir que les liens bilatéraux se développent davantage, en particulier dans les domaines de l'économie et de l'énergie. Raisi a déclaré que la politique de renforcement des relations avec les pays voisins et les pays musulmans était l'un des objectifs fondamentaux du gouvernement iranien. Sharif, pour sa part, a fermement condamné les crimes d'Israël, affirmant que son pays resterait un soutien permanent du peuple palestinien. Il a également exprimé l'espoir que l'Organisation de la coopération islamique prenne des mesures pour établir un front uni afin d'empêcher la poursuite des crimes du régime israélien. Suite du journal avec l'actualité de guerre en Ukraine. L'Iran appelle à une enquête internationale sur les laboratoires biologiques financés par les États-Unis en Ukraine. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a demandé une enquête internationale suite aux informations faisant état de l'existence de laboratoires biologiques financés par Washington en Ukraine et dans d'autres pays du monde. Les informations publiées sur les laboratoires biologiques militaires américains en Ukraine et dans d'autres pays du monde sont très inquiétantes. Ces activités sont en contradiction avec les obligations internationales des États-Unis, en particulier la Convention sur les armes biologiques, CIAB, et constituent une menace pour l'humanité, a écrit Nasser Kanani dans un message publié jeudi sur Twitter. Une commission parlementaire russe chargée d'enquêter sur les activités biologiques liées à l'armée américaine dans des laboratoires situés en Ukraine a conclu mercredi que Washington était en train de mettre au point une arme biologique universelle génétiquement modifiée comparable à un hiver nucléaire. La commission a ajouté dans son rapport que l'enquête sur la fabrication d'une arme biologique hautement destructive était basée sur des découvertes rendues publiques par les troupes de défense radiologique, chimique et biologique des forces armées russes au cours de l'année écoulée. Les États-Unis cherchent à mettre au point une arme biologique universelle génétiquement modifiée capable d'infecter non seulement les personnes mais aussi les animaux et les cultures agricoles. Son utilisation implique, entre autres, l'objectif d'infliger à l'ennemi des dommages économiques irréparables à grande échelle, a déclaré la commission russe. L'actualité est aussi et surtout le Yémen. Un échange sur 3 jours de plus de 800 prisonniers entre les deux camps ennemis vient de débuter et un premier avion vient de quitter Sanaa pour Aden. En effet, dans le cadre d'efforts diplomatiques concerté pour négocier la fin du conflit, un échange sur 3 jours de plus de 800 prisonniers a débuté ce vendredi. Les médias locaux ont rapporté que les responsables d'Ansarallah avaient accepté de libérer 181 détenus, dont des soldats saoudiens et des mercenaires soudanais qui faisaient partie de la guerre menée par l'Arabie saoudite contre le Yémen. Une guerre soutenue sur tous les plans par Washington et d'autres gouvernements occidentaux. En échange, 706 prisonniers détenus par l'ancien régime yéménite seront libérés dans le cadre de l'accord d'échange de prisonniers négocié sous l'égide des Nations Unies et du CICR en mars dernier en Suisse. Cette opération sur 3 jours constitue l'échange de prisonniers le plus important au Yémen depuis que les deux parties ont libéré plus de 1 000 détenus en octobre 2020. Destination France, pour fermer le journal, à la veille des décisions très attendues du Conseil constitutionnel Sur la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, les syndicats français ont appelé à une nouvelle journée de mobilisation jeudi à travers la France. Des grèves perturbées à nouveau les secteurs des transports, de l'énergie et de l'éducation. Des militants syndicaux ont fait irruption jeudi au siège parisien d'une société de produits de luxe, affirmant que le gouvernement français devrait suspendre son projet de faire travailler les gens plus longtemps pour leur retraite. Lors d'une 12e journée de manifestations à l'échelle nationale depuis la mi-janvier, les grévistes ont également perturbé la collecte des ordures à Paris et bloqué le trafic fluvial sur une partie du Rhin dans l'est de la France. Ils avaient dit jusqu'au retrait et ils tiennent parole. Les manifestants contre la réforme des retraites ont répondu présents pour la 12e journée de contestation, a tweeté l'un des manifestants, alors que selon le message d'un autre, plus de 400 000 personnes ont manifesté à Paris contre la loi d'Emmanuel Macron lors de la 12e journée de manifestation jeudi 13 avril. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez à l'écoute de notre commentaire politique. Les musulmans se rassemblent à travers le monde pour marquer la journée de Quds de soutien aux Palestiniens. Des millions de personnes participent au rassemblement organisé à l'occasion de la journée mondiale de Quds en Iran et dans d'autres pays afin de manifester leur solidarité avec le peuple palestinien opprimé et de condamner les atrocités commises par le régime israélien à l'encontre des Palestiniens dans les territoires occupés. Les rassemblements en Iran organisés par le Conseil de coordination de la propagande islamique ont débuté à 10h heure locale à Téhéran et dans des centaines d'autres villes du pays. Les participants au rassemblement cherchent à sensibiliser et à éveiller le monde à la situation déplorable dans laquelle vivent les Palestiniens et à faire pression sur le régime israélien pour qu'il respecte enfin les droits des Palestiniens. 10 itinéraires ont été tracés pour les rassemblements dans la capitale iranienne. Chaque année, le dernier vendredi du mois sacré du Ramadan, des rassemblements mondiaux sont organisés pour commémorer la résistance du peuple palestinien contre Israël et sa lutte pour la libération de ses territoires. Les manifestants rappellent que l'occupation des terres palestiniennes et les exactions commises par le régime israélien durent depuis bien trop longtemps. Cet événement annuel est considéré comme une occasion pour les défenseurs de la liberté du monde entier, quelle que soit leur religion, d'exprimer leur soutien à la cause palestinienne et de manifester leur colère à l'égard du régime d'apartheid de Tel Aviv, qui occupe les territoires palestiniens depuis exactement 1967. La journée mondiale de Quds s'inscrit dans le droit fil de l'héritage du feu fondateur de la République islamique d'Iran, l'imam Khomeini, que les musulmans du monde entier respectent en tant que chef spirituel. En 1979, peu après avoir mené la révolution islamique qui a renversé le Shah d'Iran, soutenu par les États-Unis, l'ayatollah Khomeini a désigné le dernier vendredi du mois de Ramadan comme la journée de Quds. Depuis le début du mois sacré de Ramadan, le régime israélien a imposé de sévères restrictions à l'entrée et à la sortie de la mosquée Al-Aqsa pour les Palestiniens. Dans un contexte de tension accrue avec les fidèles palestiniens, les colons israéliens poursuivent leurs fréquentes incursions et leurs rituels provocateurs en ce lieu saint. Les mouvements de résistance à Gaza et ailleurs ont promis d'affronter le régime israélien sur plusieurs fronts. Le 6 avril, au moins 30 roquettes ont été tirées du sud Liban vers les territoires occupés en représailles à l'assaut israélien contre Al-Aqsa. Les combattants de la résistance basés à Gaza ont également tiré plusieurs roquettes en direction des territoires occupés. Selon des sources palestiniennes, le dôme de fer du régime n'a pas réussi à intercepter la plupart des roquettes. Après les tirs de roquettes, les avions de guerre israéliens ont frappé des cibles à l'intérieur de Gaza et des positions du mouvement de résistance palestinien Hamas situées en territoire libanais.
Bonjour à tous, bienvenue ici dans la capitale iranienne, Téhéran. Le sujet du jour a été étant le retour de Macron de Chine. Ses discours concernant l'Union européenne et l'indépendantisme dont doit faire preuve l'Europe par rapport aux États-Unis, c'est donc notre sujet du jour. Donc d'abord la venue de nos invités. Je vais commencer par Maître André Chamy, juriste et expert en questions politiques, l'un de nos experts de Presse TV français. Bonjour Maître André Chamy.
Bonjour, bonjour à vous tous, M. Amrouni, votre invité.
Exactement, donc notre deuxième invité étant M. Amrouni, un de nos autres experts, donc expert également en géopolitique. Bonjour M. Amrouni, ravi de nous vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour à vous, bonjour à Maître Chamy.
Alors, le retour de Macron de la Chine, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de points. Il y a non seulement la question taïwanaise qui finalement, on le voit bien, seuls les États-Unis ne reconnaissent pas l'indivisibilité du territoire chinois. Il y a également la question de l'Union européenne. Il y a la question de la France, de ses amitiés diplomatiques à travers le monde, qui est mise à mal par la politique américaine. Il faut le rappeler que depuis donc Chirac, les relations entre la Chine et la France sont extrêmement positives, ont toujours été basées sur une économie franco-chinoise. Donc le discours de Macron a été imprégné de plusieurs notions, de plusieurs informations. Maître André Chamy, j'ai envie de commencer par vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire donc sur ce discours de Macron, encore une fois, qui relie plusieurs points en matière de géopolitique?
Vous savez, il rentre d'un voyage d'affaires où il a été reçu comme un VRP et non pas comme un président. Nous avons vu son accueil à l'aéroport et nous avons vu la manière dont il a été si j'ose dire, traité entre guillemets par le président chinois avec la présidente de l'Europe, Madame von der Leyen. C'est-à-dire, il ne fallait pas chercher des commentaires, le commentaire sortait des images. Et d'ailleurs, il n'en est rien sorti, en tout cas de cette réunion-là. On lui a dit, vous êtes venu pour signer des contrats, ben, allez-y à Canton pour signer le contrat, et on verra plus tard. Mais la distance prise du côté chinois par rapport à l'Europe est clairement affiché par les Chinois, et ce, à mon sens, de manière délibérée, pour démontrer aux Européens que, je dirais, qu'il y a plusieurs choses. Un, qu'aujourd'hui l'Europe ne compte plus sur la scène internationale, puisque sa volonté, avant de parler de souveraineté, il faut parler de volonté. La volonté européenne a été et définitivement confisquée par les Américains. Deuxièmement, sur le plan économique, aujourd'hui, l'ensemble du continent européen et pas seulement l'Union européenne sont dans un gouffre, je dirais, dont personne ne connaît la profondeur. Troisièmement, la présence politique de l'Europe est totalement anéantie à travers l'Alliance Atlantique, puisque l'OTAN absorbe l'essentiel des pays européens, et à partir de là, il n'y a plus de volonté politique, il n'y a plus de distance politique par rapport aux événements qui se passent dans le monde. Par conséquent, l'Europe n'a pas à venir chercher, si j'ose dire, des problèmes en mer de Chine. Vous rajouterez à tout cela le conflit qui se déroule aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Moi, je refuse d'utiliser le terme invasion, et ce, de manière délibérée, parce qu'une invasion, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de provocation de l'autre côté, alors que cette évasion est considérée comme un acte de défense par rapport aux menaces qui venaient de l'autre côté de la frontière. J'ai envie de dire, comment ça se fait que pendant 70 ans, on acceptait les guerres préventives du côté israélien et, à l'encontre de l'ensemble des pays arabes de tous les alentours, si j'ose dire, même éloignés, je me rappellerai toujours des attaques israéliennes contre la Tunisie. Et aujourd'hui, personne n'arrive à avoir un peu de mémoire, puisque tout le monde est devenu amnésique par rapport à tout ça. On regarde également les guerres au-delà des frontières du côté américain, pareil, personne n'a posé des questions par rapport à cela. C'est la raison pour laquelle les Chinois ont en quelque sorte voulu leur dire « vous vous éloignez de nous, nous on connaît notre véritable adversaire, pour ne pas dire notre véritable ennemi, c'est entre les Américains et nous, par conséquent ne vous emmenez pas ». Et du coup, maintenant, le président français croit pouvoir se donner bonne conscience en disant « c'est moi qui veux me donner une souveraineté européenne, mais il faudrait qu'il la définisse ». Et en réalité, il n'y a pas de souveraineté européenne. Il a été mis à l'écart par les Chinois, c'est-à-dire « moi, je ne suis pas là pour vous accueillir comme M. Poutine vous a accueilli et vous a été… » dans ce cadre-là, plus que suspect, si j'ose dire, dans votre rôle. Moi, vous n'existez pas, les personnes qui existent en face de moi, ce sont les Américains, et si les Américains ont quelque chose à dire, nous saurons nous expliquer avec eux. Une fois qu'on a compris cette mise à l'écart, affichée dans le cadre des réunions et affichée dans le cadre du discours officiel chinois, on aura tout compris, c'est-à-dire cette déclaration qui se veut souverainiste du côté du président Macron, j'ai envie de dire, est malvenue et en tout cas, il est dépassé par les événements qui ont précédé ce discours. Ça, c'est la première chose. Et quand il veut parler de souveraineté, il faudrait qu'il nous explique ce que c'est la souveraineté européenne. La souveraineté, ça veut dire la capacité de l'ensemble de l'Europe, par exemple, à défendre son territoire, mais également à se défendre entre pays. Est-ce qu'un Français, aujourd'hui, est prêt à aller mourir pour la Bulgarie ou pour la Roumanie ou pour je ne sais quel pays? Moi, j'aurais beaucoup de doutes par rapport à cette question-là. Même si ces pays-là se trouvent dans l'OTAN, c'est-à-dire si jamais ces pays-là devaient avoir je ne sais quelle menace, est-ce que les Français sont prêts à aller se battre pour ces pays-là? Moi, je vous dirais, au moins, j'aurais des doutes. Par conséquent, cette question de souveraineté n'existe pas. À partir du moment où on parle de souveraineté également, il y a une entité qui est reconnue. Quelle est cette entité dont on devrait défendre la souveraineté? Or, cette entité alléguée, c'est plus une addition d'États. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'on a un esprit commun, on a une volonté commune, on a une défense commune, on a une armée commune, on a une économie commune, on n'a rien. Mis à part la monnaie, et encore, qui n'est pas valable dans tous les pays, il n'y a rien qui unit les pays européens. Toutes les traités qui ont été signés au fur et à mesure depuis l'acte fondateur n'ont un caractère que, j'ai envie de dire, économique et social, et qui sont très souvent bafoués par ces États-là. Par conséquent, aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre ce que c'est la souveraineté. J'ai eu à discuter avec des sénateurs et des députés sur la notion de souveraineté européenne. Personne n'a été capable de donner une véritable définition sur la question de souveraineté. Par conséquent, lâcher le mot souveraineté européenne sans en donner un contenu, et encore faut-il, une fois qu'on a le contenu, qu'on les transformer en actes et en entités réelles, il y a une sacrée marche à faire, et nous n'y sommes pas encore. Par conséquent, s'ils nous préparent pour encore plus d'intégration européenne, pour que tout le monde en réalité s'effondre en même temps, comme c'est déjà le cas économiquement, je pense qu'il prend le bon chemin pour enterrer une bonne fois pour toutes, si j'ose dire, l'ensemble du continent européen et non seulement l'idée de l'Europe économique et sociale.
Merci, monsieur Maître André Chamy. Monsieur Amrouni, on a envie de dire qu'au début du conflit de l'Ukraine, les experts se sont multipliés, les expertises se sont multipliées pour dire, on vous l'a dit, c'est une mauvaise idée de s'engager, l'Europe n'a pas les moyens, surtout après la crise du corona, mais même avant, hein, il y avait une forte crise déjà en Europe du fait d'une dévalorisation du dollar qui allait se profiler d'après les experts économiques. La crise européenne, l'inflation ne date pas de la guerre en Ukraine. Donc les experts se sont multipliés pour dire ce n'est pas une bonne idée, l'Europe n'a pas les moyens, la Russie est prête depuis 20 ans à ce conflit, mais l'Europe pas du tout. Et les accords de Minsk étaient là pour ralentir, pour donner un ralentissement au conflit, pour mieux se préparer, mais l'Europe n'était pas prête. On le voit bien quand on voit le matériel ukrainien et ce qui en dit sur le conflit là-bas. Donc Macron, en parlant comme ça, n'est-il pas en train de dire nous avons eu tort ? Nous allons au-devant de beaucoup de problèmes ?
Je ne pense pas que dans l'idée du président Macron, en parlant par rapport aux relations entre l'Europe et les États-Unis et l'Europe et la Chine, et qu'il faut retrouver une certaine autonomie politique et indépendance stratégique, il avait cette idée que l'Europe a échoué lorsqu'elle a soutenu l'Ukraine. L'Europe n'a pas complètement échoué comme la Russie n'a pas complètement réussi. Parce qu'il faut se mettre, parce que ça fait plus qu'un an maintenant le conflit qui dure, c'est un conflit régional par l'appui des États-Unis. Donc il y a une pression forte sur les Européens de leur allié principal au niveau stratégique, c'est-à-dire les États-Unis, d'entrer dans ce conflit. J'ose même pas dire dans cette guerre. Et les Russes même, ils étaient surpris, ils n'attendaient pas que les Européens soutiendront l'Ukraine. Parce que dans le plan russe, c'était de réussir au bout de 2-3 mois, maximum 4 mois, à faire tomber le gouvernement de M. Zelensky. Le gouvernement de M. Zelensky n'est pas tombé. Donc les Russes ont changé plusieurs fois leur stratégie militaire. Donc on voit même que les Russes aussi, ils ont des problèmes tactiques au niveau militaire, mais aussi ça viendra économique. Et c'est pour cette raison qu'il y a le soutien chinois. C'est-à-dire le Chinois a attendu que le Russe s'implique en Ukraine pour avoir des problèmes économiques plus tard, que l'Europe aussi elle a des soucis économiques importants à cause de cette guerre, et c'est là où le Chinois propose son plan de paix. C'est très intéressant de comprendre comment la Chine fonctionne. La Chine, depuis quelques années maintenant, elle préparait son hégémonie économique, sa force militaire pour préparer, si vous voulez, l'affrontement avec les États-Unis. Et donc, c'est un plan chinois de venir en aide pour les Russes et pour les Européens. Et le président Macron, il a compris cet intérêt chinois. Parce qu'il faut rappeler que le bloc européen de 28 pays, maintenant, représente un acteur majeur dans le commerce international. Et la Chine, c'est-à-dire on a la Chine d'une part, et 28 pays européens d'autre part. Il y a un échange commercial important. Il faut rappeler que 65% du produit intérieur brut européen représente les échanges commerciaux. 43% de la production chinoise est dans le commerce international. Donc, la volonté de la Chine d'augmenter sa capacité à commercialiser dans le monde, car sa force de production, elle peut produire encore plus, mais il y a les Américains, le bloc anglo-saxon, c'est-à-dire les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, l'Australie, la Corée du Sud et le Japon. Donc on a vraiment un grand bloc, le bloc anglo-saxon, un autre bloc qui est chinois, avec tous ceux qui sont dans l'influence chinoise, et le président Poutine, il a compris que les enjeux entre le bloc chinois et le bloc anglo-saxon, il ne peut être, si vous voulez, en concurrence que si la Russie arrive à trouver un lien avec l'Europe. Et c'est pour cette raison, le bloc anglo-saxon, il a toujours cherché à briser toute alliance entre l'Europe et la Russie, et surtout entre la Russie et l'Allemagne, depuis la fin du XVIIIe siècle. Donc on est vraiment dans une stratégie de bloc. Le bloc européen représente un acteur majeur dans l'économie, il n'arrive pas à être un acteur majeur dans la géopolitique, et c'est de là vient la déclaration du président Macron. Il faut rappeler que le président Macron, dès qu'il est venu à l'Élysée, il a rappelé cette notion d'indépendance. À l'époque, il y avait M. Trump, lorsqu'il l'a rencontré à Rome, en Italie, et il a rappelé qu'on a besoin d'une indépendance militaire. Il a parlé d'une stratégie commune militaire, d'avoir une armée européenne. Maintenant, les influences et la pression américaine, elles sont puissantes, elles sont fortes, elles sont de deux natures. La première, elle est économique et financière. Les fonds de pension américains, les grandes sociétés américaines détiennent vraiment l'économie européenne et la finance européenne. Deuxièmement, l'infiltration par des élites atlantistes. Les élites atlantistes qui gouvernent la France, qui gouvernent beaucoup de pays européens, empêchent d'avoir cette autonomie politique. À l'époque, il y avait le général de Gaulle, après c'était Mitterrand, après c'était Jacques Chirac, et même Nicolas Sarkozy, même si c'est lui qui est revenu dans le temps, même le président Nicolas Sarkozy, à certains moments, cherchait cette autonomie politique. Et donc, M. Macron, en fait, il parle au nom de l'État profond français. Il y a une volonté française, quelque part, pour avoir cette autonomie, cette indépendance, mais elle n'a pas les moyens, comme Maître Chami l'a bien dit, elle n'a pas les moyens d'avoir cette autonomie politique vis-à-vis des Américains. Maintenant, est-ce que la guerre en Ukraine apporte une opportunité? Est-ce que aussi la lecture de M. Macron, est-ce que le conflit entre la Chine et les États-Unis représente une opportunité pour les Européens pour se libérer des Américains au niveau économique et surtout au niveau stratégique? Maintenant, quelle sera l'approche des Chinois? C'est aux Chinois de dire est-ce qu'ils sont prêts à investir en Europe, à augmenter les échanges commerciaux, parce qu'il faut rappeler que la Chine, elle exporte plus de produits commerciaux vers l'Europe que l'Europe exporte vers la Chine. L'Europe, à peu près, elle exporte 2 000 milliards sur une décennie, alors que les Chinois, c'est 2 600 milliards. Donc, il y a une fois et demie de plus que les Européens réunis. Donc, la force de la Chine, elle est primordiale. La force stratégique militaire de la Russie, elle est là. La faiblesse européenne, elle est dans la volonté politique d'avoir une stratégie militaire, une stratégie politique, je ne dis pas détachée des États-Unis, mais au moins indépendante des États-Unis, qui a aujourd'hui des graves problèmes à l'intérieur même des États-Unis. C'est-à-dire aujourd'hui le conflit entre blancs et autres diversités ethniques américaines, entre démocrates et républicains, entre les riches et les pauvres. Aujourd'hui, on risque un éclatement des États-Unis, ce n'est pas l'éclatement de l'Europe. Maintenant, est-ce que les Européens vont vouloir changer leur nature constitutionnelle, c'est-à-dire de passer aux États-Unis européens? Est-ce qu'on peut arriver à cette forme politique? Le problème, c'est qu'on a une économie, on a la monnaie unique commune, mais on n'a pas la politique commune. Et c'est pour cette raison, le président Macron, surtout la France a toujours cherché à créer cette autonomie politique. Mais l'Allemagne et la Grande-Bretagne, ils étaient contre.
Merci, Monsieur Imbruni, donc encore une fois notre expert des questions politiques. Alors, Maître André Chami, ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez de ce que Monsieur Imbruni a dit? Il y a beaucoup de points importants qu'il a soulignés. Est-ce que vous le rejoignez dans son expertise? Alors, en quelques mots, il ne reste plus que quelques minutes.
Non, pas du tout, parce que les États-Unis, à travers cette guerre qui a été provoquée en Ukraine, contrairement à ce qu'on imagine, ce n'est pas une guerre contre la Russie. La Russie est devenue un acteur pour préparer sa défense. Mais en réalité, l'ennemi principal des États-Unis, c'est l'Europe. C'est la destruction de l'Europe qui est en ligne de mire. Et tant qu'on n'a pas compris que c'est la destruction de toute l'économie européenne qui est en ligne de mire à travers cette guerre-là, c'est qu'on n'a vraiment pas décodé, si j'ose dire, cette démarche américaine. Évidemment, une fois que l'économie européenne est détruite, on revient presque au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire les États-Unis deviennent l'industrie du monde, en tout cas du monde occidental, devient le support économique à travers le dollar et devient également la force militaire pour protéger les Européens. Je m'explique.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, la survie des États-Unis revient même au fait que l'Europe soit les États-Unis l'autre étoile au drapeau américain, c'est-à-dire le dollar. Est-ce que peut survivre s'il y a une séparation avec l'Europe?
ben, ça posera des problèmes, puisque en réalité, le gouffre aujourd'hui de la dette constituée par la dette européenne, aujourd'hui, il faut fabriquer de la monnaie. L'Europe ne peut plus fabriquer de la monnaie parce que nous sommes devant une banque centrale qui a une monnaie de devise, mais ce n'est pas une monnaie d'échange. C'est-à-dire, la valeur de change ne peut passer que par le dollar. D'ailleurs, le rattachement de toutes les relations à travers le SWIFT va automatiquement donner les données nécessaires aux États-Unis pour la maîtrise de ces rapports, je dirais, échanges commerciaux qui passeront nécessairement par le dollar. Les Chinois et les Russes et leur, on va dire, leur cercle d'intérêt ont commencé à sortir de ce dollar-là, alors que les Européens sont toujours rattachés au dollar malgré tous leurs efforts. Si on devait faire un véritable effort, il aurait fallu créer un monnaie de change, c'est-à-dire qui concurrence le dollar. Mais la volonté européenne n'a jamais été dans ce sens-là, puisque le projet européen, le projet dans sa naissance, je dirais, son émergence, c'est un projet américain. Mais on oublie tout cela, puisque à l'époque, les livres aujourd'hui le disent, les documents historiques le disent, c'est un véritable projet européen. En réalité, l'Europe devait se transformer en pied-à-terre de l'Amérique en Europe pour accéder vers l'Asie et l'Orient. Derrière ça, évidemment, il y a une volonté de maîtriser le marché européen à travers la circulation de la marchandise, à travers les capacités de production aujourd'hui, à travers la destruction de l'économie européenne. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, vous allez avoir des faillites d'entreprises et ça va être remplacé par qui? Ça va être remplacé par le système de sanctions et par le système de dollars. Évidemment, ça va passer automatiquement par le système américain, c'est-à-dire ils vont être obligés d'aller acheter aux États-Unis. Deuxièmement, au niveau de la destruction de ce que j'appellerais la puissance militaire européenne, qu'est-ce qui s'est passé à travers la guerre d'Ukraine? Les Européens ont dû se défaire, si j'ose dire, des derniers sous qu'ils avaient dans leur poche. C'est la raison pour laquelle les armées européennes aujourd'hui sont dans un état désastreux, puisqu'ils ont donné leur dernière cartouche, si j'ose dire, dans la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire, demain, s'ils devaient regarnir leur caserne, ils sont obligés d'aller en acheter aux États-Unis, puisque même l'industrie d'armement, aujourd'hui, est en souffrance, parce qu'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de commande.
Mais
les industries européennes n'ont plus les moyens, aujourd'hui, de continuer de subsister sans passer par les Américains. Et les armées sont obligées de s'armer là-bas. En tout cas, chez les Américains et chez leurs alliés, à travers ce qu'on appelle les ruissellements des boîtes américaines à travers le monde. Mais en réalité, c'est l'économie américaine qui sera la seule bénéficiaire de ce qui se passe.
Merci. Alors,
en dehors de ça, vous aurez également la volonté politique qui aura disparu parce qu'on aura rattaché l'Europe à la décision américaine, c'est-à-dire là où je vous conduis vers une guerre, vous irez, vous fermez les yeux et la bouche, pour ne pas dire les choses autrement, et c'est ce qui s'est passé en Ukraine, et c'est ce qu'on voudrait qu'ils fassent par rapport à la Chine. Mais pour l'instant, si j'ose dire, le projet chinois est mis de côté, alors qu'il était en première ligne à l'époque d'Obama. Biden l'a remis à l'époque de Trump. Maintenant, Biden l'a remis en première ligne, mais tout en laissant maintenant la confrontation entre les Européens en direct avec les Russes, parce que la destruction de l'économie européenne à travers la crise du Covid et à travers la guerre en Ukraine, mais ce n'est pas la guerre en Ukraine qui se trouve, contrairement à ce que dit M. Ambruni, ce n'est pas la guerre en Ukraine qui a abouti à la destruction de l'économie européenne. L'économie européenne était déjà en situation plus que difficile, et c'est la raison pour laquelle il y a eu un surendettement qui devient de plus en plus insupportable pour l'ensemble des économies à ce moment-là européennes, puisqu'il faut différencier entre l'économie de l'Europe et l'économie de chacun des États, et chacun des États est aujourd'hui
et je en suis dans le regret de devoir vous couper.
Insupportable pour la population.
Merci, maître André Chamy. Je suis en regret de devoir vous couper parce que c'était vraiment un débat extrêmement riche, un vrai débat, puisque nos deux experts ne sont pas d'accord sur la manière de percevoir ce qui se passe actuellement en Union européenne, mais ça ne permet que d'avoir un débat beaucoup plus riche. Je vous remercie, je remercie nos chers experts pour ce partage avec nous, avec nos éditeurs. C'est ici, donc vous l'aurez compris, que notre programme débat se finit. Je vous remercie, chers auditeurs, de nous suivre. N'hésitez pas à nous regarder sur notre site internet de Presse TV, ainsi que nos canaux des réseaux sociaux également. Moi, je vous dis à une prochaine fois pour un autre sujet du débat, ici, dans les locaux de Presse Civile, dans la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission qui porte sur la réaction iranienne suite aux récentes agressions des forces israéliennes sur l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa. Dans un communiqué, le ministère iranien de la Défense a fermement condamné les crimes commis par Israël contre les Palestiniens dans les territoires occupés, ajoutant que le monde assistera bientôt à l'effondrement du régime sioniste. L'organisation idéologique et politique du ministère de la Défense a fait ses remarques dans un communiqué publié lundi 10 avril pour condamner les récents actes de profanation et les attaques du régime de Tel Aviv contre l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa et le passage à tabac de fidèles palestiniens sur le lieu saint. Le communiqué du ministère iranien de la Défense évoque des crimes récemment commis par le régime factice et provisoire sioniste, dont notamment la profanation de la mosquée Al-Aqsa, suivie d'affrontements au cours desquels plusieurs fidèles musulmans ont été blessés à l'intérieur du sanctuaire sacré, pour dire que tout cela est le signe du désespoir de ce régime envers l'islam et les fidèles musulmans. Bien que les crimes et les malfaisances honteuses de ce régime soient de notoriété mondiale, ces actes mettent au grand jour les tentatives louches et le plan désuet de ce régime pour se sauver d'une profonde crise interne, et cela avec un effort désespéré de fourvoyer l'opinion publique intérieure et de lui occulter la corruption et l'incompétence des responsables criminels du régime sioniste, ajoute le texte. À son insu, ce régime a attisé les flammes de colère, d'éveil et de soulèvement auprès de la résistance palestinienne, surtout chez sa jeune génération, connue pour avoir une véhémence héroïque, si bien que dans un proche avenir, le monde entier sera, si Dieu le veut, témoin de l'effondrement de toute cette prétendue puissance de ce régime effectivement hyper vulnérable. Or, il n'y a aucun autre refuge plus faible que la toile d'araignée. Pour finir, le communiqué du ministère iranien de la Défense appelle tous les gouvernements et toutes les nations, ainsi que toutes les personnalités influentes, les élites, tous les penseurs et intellectuels au monde à condamner ces actes pour empêcher que les crimes odieux de ce régime funeste ne puissent se reproduire. Mardi dernier, les forces israéliennes lourdement armées ont pris d'assaut l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa avant de tirer des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes dans la salle de prière de Qibli, où des centaines d'hommes, de femmes, de personnes âgées et d'enfants passaient la nuit pour prier dans ce mois béni de Ramadan. Des témoins oculaires ont affirmé que des balles en acier recouvertes en caoutchouc avaient également été tirées par les forces d'occupation. Les forces israéliennes ont blessé et arrêté des centaines de Palestiniens lors d'attaques qui se sont multipliées depuis le début du mois de Ramadan. Entre-temps, des colons israéliens se sont livrés à la violation et à la profanation de l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa sous la protection de l'armée et de la police israélienne. Les mouvements de résistance palestiniens dans la bande de Gaza ont averti le régime de lourdes conséquences de l'escalade qu'il a provoquée à Rots et ailleurs. Depuis le début du Ramadan, le régime israélien a imposé des restrictions strictes à l'entrée et à la sortie des Palestiniens vers et depuis les portes de la mosquée Al-Aqsa. En pleine tension accrue avec les fidèles palestiniens, les colons israéliens poursuivent également leurs incursions et rituels provocateurs sur le lieu saint. Jeudi dernier, une dizaine de roquettes ont été tirées depuis le sud du Liban vers les territoires occupés par Israël en représailles à l'agression israélienne contre la mosquée Al-Aqsa. Dans un communiqué, le Conseil de coopération du Golfe Persique a fermement condamné les incursions israéliennes sur l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa, affirmant que les agressions incessantes des forces israéliennes contre la mosquée constituent un acte de profanation contre la première Qibla des musulmans et le troisième lieu saint de l'islam. Le président iranien Ibrahim Raisi a pour sa part affirmé dimanche que les nations musulmanes devraient renforcer leur coopération et former un front uni contre Israël pour soutenir le peuple palestinien. Lors d'une conversation téléphonique dimanche 9 avril avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, le président iranien Ibrahim Raisi a souligné que les nations musulmanes devaient renforcer leur coopération et former un front uni contre Israël pour soutenir le peuple palestinien. L'Iran et l'Algérie ont des positions communes sur les questions régionales et mondiales, en particulier sur la Palestine et les droits de sa nation opprimée, a affirmé le président iranien. Rappelons que dans la soirée du 4 avril, les forces israéliennes ont fait irruption dans la mosquée Al-Aqsa à Quds occupée et agressé des dizaines de fidèles palestiniens avant de les expulser de force du site. Ils ont fait usage de grenades assourdissantes et tiré des gaz lacrymogènes dans la salle de prière Al-Qibli, où des centaines d'hommes, de femmes, de personnes âgées et d'enfants passaient la nuit pour prier. Des soldats israéliens ont ensuite battu des fidèles avec des matraques et des fusils anti-émeutes, faisant de nombreux blessés. Plusieurs Palestiniens ont été arrêtés. En moins de 24 heures, les forces du régime israélien ont organisé une deuxième attaque contre les fidèles palestiniens dans l'enceinte de la mosquée Al-Aqsa. En guise de représailles, plus de 30 roquettes ont été tirées le jeudi 6 avril sur les territoires occupés de la Palestine depuis le sud du Liban. Par la suite, le régime israélien n'a pas hésité à frapper Gaza et les positions du Hamas au Liban. Lors de cette conversation téléphonique, le président algérien a pour sa part rappelé que le peuple opprimé de la Palestine souffrait des actes barbares du régime israélien pendant le mois sacré de Ramadan. Le peuple palestinien sera libéré de l'oppression des sionistes à l'aide des pays musulmans, a-t-il souhaité. Sur le même volet, le président Raisi s'est également entretenu dimanche par téléphone avec le président syrien Bachar Assad. L'ordre mondial change en faveur de l'axe de la résistance et contre l'arrogance mondiale et le régime israélien. Les crimes du régime sioniste sont la preuve de sa faiblesse et de son désespoir. L'avenir est donc brillant et prometteur pour l'axe de la résistance, a précisé le président iranien Ibrahim Raisi. Le président iranien a fait ses remarques lors d'un entretien téléphonique avec son homologue syrien Bachar Assad suite à l'intensification des actes violents du régime israélien contre le peuple palestinien opprimé. Au début de la conversation téléphonique, les deux parties ont échangé des félicitations à l'occasion du mois béni de Ramadan. Lors de cette conversation, le président iranien a déclaré que l'ordre mondial changerait en faveur du front de la résistance et contre l'arrogance mondiale et le régime israélien. De son côté, le président syrien a souligné 4 décennies de résistance de la République islamique d'Iran et de la Syrie contre les ennemis communs, poursuivant qu'en raison de la résistance du peuple palestinien, les signes de l'effondrement du régime israélien sont évidents.
Thank you.